Bonjour tout le monde, bienvenue à C'est quoi ta spécialité? Cette semaine, on a reçu un résident, ce qui est une exception. C'est Dr. Nadeau-Vallée, que vous connaissez peut-être aussi sous le nom de Wal Trudeau ou encore anciennement Walmart Justin Trudeau.
Oui, c'est un épisode un peu différent de, d'habitude. Là. Dans le fond, on a plus discuté de comment il avait décidé de faire de la vulgarisation scientifique sur les réseaux sociaux, puis comment il avait trouvé ça, puis comment ça va peut-être servir dans son parcours en tant que médecin. Donc, c'est ça. Si ça vous intéresse d'en apprendre un peu plus sur la présence des réseaux sociaux ou sur Walmart Justin Trudeau, ben, je vous conseille cet épisode.
Bonne écoute! Donc, avant de commencer l'épisode, j'aimerais ça remercier notre commanditaire officiel, Archer. Archer, c'est une firme de finance qui se démarque vraiment par sa simplicité, sa rapidité d'exécution et son expertise.
Oui, puis c'est une firme qui est spécialisée en médecin. Donc, n'hésitez pas à les contacter là, si vous avez des questions par rapport aux bourses, à la marge de crédit, à des assurances invalidité ou à des options de placement.
Oui, puis en plus, les rendez-vous sont gratuits. Donc, on met le lien en dessous du vidéo. Pour vrai, vous ne perdez rien à aller les rencontrer. Ça vaut la peine.
Okay, merci beaucoup, Mathieu, d'avoir accepté notre invitation.
Ça fait plaisir.
Donc, toi, tu as fait un doctorat en pharmaco, hein, si je ne me trompe pas, à l'Université de Montréal.
Oui, c'est ça.
Puis, qu'est-ce qui t'a poussé après à t'inscrire en médecine?
Dans le fond, j'ai commencé par faire un bac en sciences biomédicales. Ensuite, je me suis dirigé vers la recherche, un doctorat en pharmacologie à l'Université de Montréal. Puis, mon superviseur, c'était un médecin.
Okay.
Un médecin-chercheur, hein? Donc il y a la double formation, là, doc au carré, donc doctorat en médecine et doctorat de troisième cycle, qui est un doctorat en recherche. Puis une journée comme ça, il me dit « Hey Mathieu, viens-t'en, on va aller faire la tournée des patients ensemble ». Puis il m'a amené, c'était à Sainte-Justine, il m'a amené faire la tournée de néonatologie, là, les prématurés aux soins intensifs. Puis il me montrait des images, tu sais, regarde la radiographie de tel patient, qu'est-ce que tu en penses? Puis là, j'ai donné mes impressions, puis il trouvait que j'étais bon, même si j'étais pas en médecine. Puis il me dit, ah, tu devrais appliquer.
Un naturel.
Oui, c'est ça. Donc cette année-là, j'ai appliqué, puis c'est ça. Il m'a dit qu'il me voyait. Il disait, il me semble que tu as la fibre de la médecine en plus d'avoir de la fibre de la recherche.
Donc, Fait que vous êtes rentré en médecine. T'es rentré en médecine. Puis là, est-ce que déjà à ce moment-là, tu savais vers quoi tu voulais te diriger dans le domaine ou?
Oui. Pour moi, c'était évident que je voulais aller en obstétrique.
OK.
Les accouchements.
Ah ouais. Puis c'est pas ça que tu fais vraiment. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi tu as changé d'idée?
Ben, j'aimais beaucoup la recherche dans le domaine. Je trouvais ça intéressant. Je trouve qu'il y a beaucoup de progrès à faire dans ce domaine-là parce qu'une femme qui arrive en travail prématuré, en travail préterme, un travail avant que bébé soit prêt à sortir finalement, il n'y a pas grand-chose que les médecins peuvent faire pour retarder ça significativement ou prévenir ça. OK? Donc, on compare ça souvent à un train qui est en marche. Puis les médicaments qu'on donne comme étant quelqu'un sur la traque qui fait « arrête-toi okay, ». Ça marche pas comme ça.
C'est pas très efficace.
Exactement. Puis depuis à peu près 10-20 ans, c'est les mêmes médicaments qui sont administrés. Il n'y a pas eu beaucoup de progrès dans ce sens-là. Souvent, ce qu'on dit, c'est qu'on va traiter le prémat quand il va sortir au lieu de se dire bon, « on va traiter la maman, l'utérus, l'environnement du prématuré pour pas qu'il sorte puis qu'il se développe jusqu'à terme ». Donc, les travaux de mon PhD, c'était ça. Puis, je trouvais ça tellement intéressant, je me suis dit « Ah, ben je vais faire la clinique aussi, je vais soigner des femmes enceintes, puis ça va être génial. » Jusqu'à temps que j'arrive à mon stage à l'externat, mais là, j'ai détesté ça.
Qu'est-ce qui vous a désenchanté, là? Qu'est-ce qui est arrivé au stage que t'étais comme « Ouf, c'est vraiment pas pour moi? »
Ben, j'avais l'impression que tout le monde était stressé. J'ai pas trouvé que les équipes étaient tant ouvertes que ça à mon discours qui était plus ancré dans la science fondamentale. Les souris, la recherche développementale, tout ça. Puis j'ai trouvé aussi que ça me rejoignait pas, mon tempérament, ma personnalité, que c'était pas moi.
C'était pas un match.
Non, c'est ça. Moi, je suis plus quelqu'un de relax dans ma chaise. L'anesthésie, c'est mieux.
Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui rentrent ici avec une idée en tête.
Ouais.
Ça a dû quand même être perturbant un peu d'arriver au choc et faire comme, hey, finalement, c'est vraiment pas ça que je veux faire.
Ouais, c'est clair, mais surtout quand j'ai effectué le stage, là, puis surtout que quand c'est venu le temps pour moi d'appliquer à la résidence, j'étais pas encore tout à fait décidé, puis à la dernière minute, j'ai tout changé mes choix.
Ah ouais, hein?
Par exemple, j'avais pas vraiment fait d'anesthésie avant d'appliquer en anesthésie. Donc, je n'étais pas 100% sûr de ce que c'était. Je me doutais un peu, là.
Ouais.
Mais finalement, j'ai appliqué. Puis comment ça fonctionne en médecine, c'est qu'on applique. Puis ensuite, il y a une période. Ensuite, on fait les entrevues. Ensuite, il y a une période. Puis ensuite, on fait un ranking, ça s'appelle. Mm-hmm. Donc, on classe nos choix en ordre de priorité. Ensuite, il y a une période. Puis là, on reçoit dans quel programme on est admis. Après ça, il n'y a plus de choix. C'est ton programme. Puis si ça ne fait pas ton affaire, ben, l'année prochaine, tu réappliqueras.
Ouais. C'est un match play. On ne peut plus changer.
Là. Exactement. Une fois que c'est fait. Donc, il y a comme 6 périodes de temps mort dans lesquelles j'ai eu le temps de réfléchir. Puis même de prendre des stages en anesthésie. J'ai réussi à faire 4 semaines. Puis après ça, là, c'était clair pour moi que c'était ça.
Ouais. Une chance, parce que là, ça a comme confirmé au lieu d'infirmer.
Sinon, j'aurais ranké différemment. J'aurais probablement été vers la médecine interne.
OK, ouais. Qui aurait été encore... Ben, c'est comme un choix plus ouvert. Puis après ça, ça donne plus de temps de
tout à fait.
Décider.
Parce qu'il y a un deuxième choix à faire en médecine interne.
Puis que là, t'es en quelle année de résidence?
Là, je vais commencer ma 3e année de résidence sur 6 et non 5 parce que je fais le programme clinicien-chercheur.
Ah, OK. Puis, ouais. Okay. Ça fait du sens.
Ouais.
Puis c'est comment? Parce que là aussi, t'as été, parce que t'avais une grosse partie, ces réseaux sociaux, je pense. C'était quand même bien présent, mais en résidence, d'habitude, il me semble que les résidents sont bien occupés. Comment c'est d'où l'idée est partie? Puis comment t'as décidé de faire? Comment je vais prendre le temps de faire ce projet-là?
Mais c'est drôle, c'est ce que tout le monde me dit. Là. Je sais pas où il trouve son temps, mais pourtant, je l'ai le temps. Là. Donc, je sais pas. Il faut dire que la résidence, c'est un marathon et non une course. Donc, c'est échelonné sur 5 ans pour la plupart des programmes. Donc, oui, c'est exigeant, mais il y a moyen de séparer son temps. Il y a des périodes qui sont plus relaxes que d'autres. Je pense que ça a juste bien tombé. Parce que durant le gros moment de mes capsules, c'était assez relax dans ma résidence. T'sais, j'avais pas de gros examens, j'avais pas de gros cours, puis mes stages étaient assez relax. Là, en ce moment, j'ai des stages qui sont moins relax, puis je le sens. T'sais, j'ai pas le temps de faire des capsules, puis j'ai pas le temps de m'intéresser à ce que les gens m'envoient vraiment.
Mm.
Mais c'était pas du tout le même monde en octobre, en novembre, quand j'ai fait le gros de mes capsules.
OK. Mm. Puis qu'est-ce qui t'a décidé de faire ces capsules-là?
Ça, c'est intéressant. Bon, premièrement, j'ai fait 8 ans de recherche fondamentale. Là, je m'embarque dans 2 années supplémentaires. En plus, tu sais, je vais finir avec 20 ans d'études là, avant de travailler. Donc, je suis quelqu'un qui aime ça, tu sais, la recherche, la science. Puis, ça me dérange au fond de moi-même quand quelqu'un dit n'importe quoi. Puis, il y en avait beaucoup sur les médias sociaux du n'importe quoi. particulièrement en science à cause de la pandémie. Tu sais, avant, je sais pas qu'ils disaient n'importe quoi sur quoi, là. Mais là, ils disaient n'importe quoi sur un sujet que je connais. J'ai fait mon doctorat, tu sais, dans le domaine de l'immunologie. Puis on se met à parler de vaccins, puis on en parle un peu n'importe comment sur les médias sociaux. Puis ça me fâchait un peu. Puis au début, ça a été ça, tu sais, c'est des gens qui s'y connaissent pas, qui disent un peu n'importe quoi, c'est pas la fin du monde, tu sais, on peut pas leur en vouloir, tu sais.
Mm-hmm.
Mais quand j'ai commencé à faire ça, là, dans le premier ou deuxième mois, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des professionnels de la santé qui disaient n'importe quoi.
Ouais.
Très rare, hein? C'est extrêmement rare, c'est une très petite minorité, mais ça existe. Puis là, je me suis mis à surtout combattre ça. Je me suis rendu compte que c'était impossible de combattre toute la désinformation. Je me suis dit, je veux vraiment me concentrer sur celle qui est le plus dommageable. Puis ça, c'est celle qui est propagée par des gens qui ont l'air crédibles. Parce que le public y croit, base leurs décisions sur leur santé là-dessus, puis c'est vraiment misleading.
Parce que ces gens-là, c'est ça, c'est une minorité, mettons, des professionnels de la santé.
Ouais.
Mais ceux qui sont dans le côté plus du doute, ils vont vraiment s'accrocher à ce que ces gens-là disent, ce que cette minorité-là dit.
Puis c'est normal, ils ont un sarrau, ils ont un stéto, ils ont 10 ans d'années d'études, ils ont publié dans des... Je veux dire, je regardais par exemple, elle s'appelle Alexandra Henrion-Code. C'est une généticienne française. Elle a un indice H-index à 36. Okay? Le H-index, pour un chercheur, ce que ça veut dire... Un H-index à 2, ça veut dire qu'elle a au moins 2 papiers qui ont été cités au moins 2 fois.
OK.
Mm.
Donc, c'est exponentiellement difficile d'arriver à des chiffres hauts. Parce qu'il faut avoir beaucoup de papiers qui sont beaucoup cités. Par exemple, un H-index à 200, ça veut dire au moins 200 papiers cités au moins 200 fois.
Ça, c'est fou, là.
C'est vrai. Je sais même pas si c'est... Peut-être que ça existe, je sais pas. Mais, tu sais, quand on commence à parler de 25, 30... Mais elle a un H-index à 36.
Elle en a fait de la recherche.
Elle en a fait, tu sais, puis, tu sais, elle est respectée dans son... En tout cas, elle était respectée, là. Maintenant, c'est la risée de la science, là. Mais elle s'est mise à dire... C'est une généticienne. Puis elle s'est mise à dire, faites attention, ces vaccins-là vont modifier votre génome.
Mm.
les vaccins à ARN. L'ARN va modifier votre génome. Vous allez être altéré comme un OGM, génétiquement modifié, ajouté irréversiblement. Puis en plus de dire ça, elle disait, puis vos organes vont se mettre à flancher, ça va altérer votre sang, puis en tout cas.
Genre, je pense que ça ferait peur à n'importe qui, là.
Mais oui, ça ferait peur à n'importe qui. Puis, tu sais, moi, la première fois que j'ai regardé ça, je me suis dit, je suis allé voir, c'est qui? Oh, c'est quelqu'un de respectable. OK, est-ce quelque chose que j'ai manqué? Non. C'est juste quelqu'un qui dit n'importe quoi. Puis que ça donne qu'elle est crédible, mais elle dit quand même n'importe quoi. Puis c'est là que j'ai essayé de faire comprendre aux gens, le plus important, c'est pas la crédibilité d'une personne, si elle est dans son domaine, si elle a des diplômes, un sarreau. Le plus important, c'est sur quoi à base ce qu'elle avance.
Ouais.
Sur quelles sources. C'est les sources qui sont importantes. Que ce soit des sources qui sont crédibles, reproductibles, scientifiques, des données probantes. Puis ça, c'est un petit peu ce que les gens ont plus de la misère à comprendre. C'est un petit peu, c'est next step de compréhension. Il y en a que ce qu'ils comprennent, c'est « Ah, c'est un médecin, il y a un sarreau » ou ce qu'il dit, c'est vrai.
Mm-hmm.
Mais une grande partie de mon travail, ça a été de montrer que ce qui est important, c'est les sources. Puis, ça fait aussi partie de mon travail de dire que je suis résident. Oui, je suis un bébé médecin, entre guillemets. Ouais. On s'en fout. Puis, je peux même être un boucher ou encore quelqu'un qui travaille au dépanneur. Peu importe. Ce qui est important, c'est les sources sur lesquelles je base mon propos. C'est sûr qu'il y a aussi une partie importante dans est-ce que je suis capable de les interpréter puis de les mettre en relation avec le reste.
Mm-hmm.
Mais le plus important, c'est les sources. Puis c'est pour ça que dans mes vidéos, ce que je fais, c'est que je les mets derrière moi, mes sources, quand je parle.
Mm-hmm.
Comme ça, tu veux bien, peut-être pas d'accord avec moi, c'est pas une question d'opinion, la science, c'est une question de fait, puis les faits, sont là.
Ça, c'est pas moi-même qui le dis, c'est ça. Là.
C'est basé sur la science, des données probantes. Puis ce qui est important aussi, c'est la reproductibilité. Une étude parmi 200 qui dit complètement le contraire des 200, on va attendre que ça soit reproduit.
Ouais, ouais.
Ça, il y en a eu aussi. Il y a des articles révisés par les pairs. Puis j'arrête pas de dire à tout le monde, basez-vous sur des articles révisés par les pairs. Parce que la révision par les pairs, c'est un processus qui est essentiel à la science. Il faut que des chercheurs soumettent leurs travaux à des chercheurs indépendants qui se connaissent pas, puis qu'eux, ils révisent, puis ils acceptent ou non. C'est comme ça que ça fonctionne en science. Mm-hmm. Puis j'ai vu des articles, c'est des exceptions, mais il y a des articles révisés par les pairs qui sont publiés, puis qui disent n'importe quoi. Leurs données sont falsifiées, puis leur méthodologie est mauvaise. Ça existe, il y en a. Puis ça, c'est la deuxième chose auquel j'essaie de me battre. Il y en a très peu, mais il y en a quelques-uns. J'en ai quelques-uns en tête. Puis souvent, les gens qui sont anti-vaccins ou complotistes vont se servir de ça. Mm-hmm. Puis souvent, les auteurs de cet article-là, c'est drôle, c'est les mêmes. Puis les personnes qui ont révisé ces papiers-là, c'est drôle, c'est toute la même gang qui se centre-revise leurs papiers. Puis que, en tout cas, j'ai un de mes vidéos que je trouve que c'est un de mes meilleurs, c'est je prends le temps de tout réviser un article scientifique publié et révisé par les pairs au complet pour expliquer comment c'est mauvais, que la méthodologie est trompeuse, puis que leur conclusion peut aucunement être liée aux données qu'ils présentent.
Mm-hmm.
Puis je viens de voir qu'il y a un mois, il y a tout un gros groupe de scientifiques qui viennent de sortir une révision sur ce papier-là pour le détruire complètement.
Il y avait un peu la même job que vous, mais...
C'est ça, mais c'est toujours à délai. Moi, je suis toujours un des premiers à le faire parce que moi, je prends mon téléphone, je le fais.
Ouais, ouais.
Mais les gros, comme l'agence Science Presse au Québec ou les gros organismes, eux autres, ça leur prend des mois.
Il faut que ce soit fait de façon formelle.
Formelle, puis... Ouais.
Non.
Ouais.
Puis c'était comment un peu aussi, genre... comment ça a été reçu, ces réseaux sociaux? Est-ce que ça a tout été des commentaires favorables à tes vidéos? Ou s'il y avait eu des commentaires... Comme même nous, genre, parfois, on a eu des petits commentaires en dessous de nos vidéos, puis comme on parle même pas à peine de la pandémie, tout ça. Et j'imagine que si toi, t'adresses des sujets qui sont bien controversés...
Ouais. Mais le plus important pour moi, c'est que c'est bien reçu par mes pairs. Je me suis fait des amis, des collègues en or, des gens qui étaient mes idoles, que maintenant on se parle à chaque jour. Ça, c'est la chose la plus importante pour moi. C'est bien reçu par mes pairs. Ça veut dire que ce que je fais est apprécié et bon. Mm. J'ai été reconnu il n'y a pas longtemps par l'Association médicale canadienne qui a fait une publication sur moi. Mais effectivement, tu sais, il y a des gens du public qui sont peut-être pas nécessairement... qui partagent pas nécessairement pas des opinions, mais qui sont pas d'accord avec ce que je dis parce que ça va contre leur croyance. La croyance, c'est le bon mot. Puis qui vont aller jusqu'à faire de l'intimidation, des menaces, créer des faux comptes, signaler mes vidéos, essayer de me nuire, appeler à mon université, me signaler au Collège des médecins. J'ai tout vu. Il y a même un groupe qui s'est créé sur les réseaux sociaux qui est un groupe de signalement massif de moi au Collège des médecins.
Impossible. Le collège recevait des appels sans cesse.
On n'est jamais informé de ce que le collège reçoit sur nous. Okay. Mais j'ai jamais rien reçu du collège. Donc, ils filtrent. Ouais, c'est ça.
Ah, ouais. Ils grosse job pour eux autres.
Mon université aussi, d'ailleurs. Parce que j'ai reçu des courriels sur mon adresse institutionnelle de gens qui disaient on va appeler ton directeur de recherche. Puis. T'sais, j'ai gradué en 2019 en directeur de recherche. Pourquoi tu m'appelles?
Oh, wow. Mais, ouais.
Ça devait être dur à gérer, là. Ouais.
Ben, c'est-à-dire, je le gère avec. Tu sais, je les ignore, là. Ouais. Ça vaut pas la peine de s'embarquer là-dedans. Il y a des gens aussi qui ont trafiqué des images de moi qui m'ont fait dire des choses que j'ai jamais dit.
Oh, ouais.
J'en ai ça doit être plus complexe.
Ben, c'est plate, là, parce qu'il y a du monde qui les croit, puis là, c'est mon image. Il y en a qui est drôle. C'est une image de moi comme sur TikTok avec un background, puis ça dit comme si vous mangez du caca, votre système immunitaire va être plus fort. Puis je lisais les commentaires en dessous de la publication, puis les gens y croient. Ils disent, mon Dieu, il va donc bien loin, le doc TikTok, de dire ça. Puis il y a des gens qui menacent. Ils disent, si je le vois, je l'attaque. Puis fait que les gens y croient. C'est absurdité là, mais ça montre à quel point, tu sais, il y a des gens qui croient n'importe quoi là.
Ouais, ouais. Comment c'est facile ces réseaux sociaux en ce moment de juste avoir de l'information de partout puis de pas regarder un peu plus loin que ce qui est premièrement affiché à nous.
Exactement, de pas vérifier la provenance de tout ça.
Puis tu disais, tu sais, si on va de l'autre côté, tu disais, je pense que tout le monde en parle que genre, ce qui est, en fait, parenthèse, c'est quand même fou que tu te sois fait genre inviter à tout le monde en parle, là, tu devais être. Genre, ça, justement, tu sais, comme ça a été reçu d'une façon mauvaise, mais aussi vraiment bien, tu devais pas t'attendre à ce que ça aille autant.
Puis le bye-bye aussi.
De façon exponentielle. Là.
Ouais, tout le monde en parle, c'était particulier. Puis, tu sais, c'est une autre époque complètement parce qu'à ce moment-là, j'étais anonyme. C'est de un. Ouais. Tu sais, j'étais sur TikTok, mais mon nom à ce moment-là, c'était genre. MNV.maz, ça n'avait pas rapport. Okay. Puis j'étais anonyme. J'avais jamais dit mon nom, mon université, ni dans quel programme. J'avais même jamais dit que j'étais résident.
OK.
Puis tout ce que j'avais dit, c'est j'ai des diplômes en santé. Puis c'était le moment le plus chaud parce qu'à ce moment-là, il y avait vraiment des groupes qui s'organisaient pour essayer de m'attaquer parce que j'avais des propos pro-vaccin, dans le fond. Puis dans toute cette folie-là, c'est ça. J'ai été contacté par Tout le monde en parle. Puis là, c'est à ce moment-là, j'ai pris le téléphone, j'ai dit là, ça va trop loin. Je vais appeler le vice-doyen de l'Université de Montréal pour lui dire. Puis c'est ça, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé les coms, puis j'ai dit, hey, je vais penser à Tout le monde en parle. là, eux, ils ont fait, oh! Ils se sont réunis. Ils ont dit, on va faire un appel tous ensemble parce qu'on, tu sais, on connaît pas, là, on sait pas que.
Ouais, ouais.
Puis là, on s'est parlé, puis là, le vice-doyen a dit, ah, tu sais, je suis allé voir ce que tu fais. Puis, il dit, tu sais, on aurait une toute autre conversation si tu avais des propos anti-vaccin.
Ben,
il dit, une chance que tu dis, c'est basé sur la science. Mais il dit, il faut que tu fasses attention, tu sais, parce que. Y a des pièges hein, sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, il m'a averti des pièges. Par exemple, il ne faut pas que les gens se sentent, par exemple, que je donne des conseils personnalisés.
Ouais.
Comme toi, va prendre de l'aspirine. Ou, tu sais, des choses qu'on sait, là, mais c'est évident. Mais il m'a avisé. À Tout le monde en parle. Des fois, ils font des rafales. Fait qu'il dit s'il fait une rafale avec une vignette, genre un jeune homme de ta-ta-ta veut ta-ta-ta, qu'est-ce que tu fais? Il dit tu réponds pas à ça. En tout cas, il m'a donné pendant une heure des conseils.
Okay.
Là, à ce moment-là, je me suis dit oh mon Dieu, c'est bien.
Ça va être intense.
C'est sérieux, là. Mais finalement, ça s'est super bien passé.
Mm-hmm.
Puis c'était un peu comme mon coming out, là, parce que là, mon nom est sorti, puis tout ça.
C'était pas juste Walmart, Justin Trudeau, là. C'était celui qui est un résident.
C'est ça. Puis là, c'est là que justement, là, les gens se sont dit, oh, on va aller faire des plaintes. Puis tout ça, des gens anti-vaccins. Puis ils se sont mis à vraiment m'attaquer. Il y a des gens qui voulaient trouver mon adresse. Fait que octobre-novembre, c'était. J'étais pas bien, là.
Ouais.
Puis c'est dur d'être un scientifique actif sur les réseaux sociaux parce que les scientifiques sont beaucoup attaqués. Et en Ontario, on a qui ont eu des vraies menaces de mort. Là, des médecins qui étaient des responsables de cliniques de vaccination puis qui ont eu des vraies menaces de mort. D'ailleurs, l'Association médicale canadienne est en train, de ce qu'ils m'ont dit, de développer un programme pour la protection des médecins scientifiques sur les réseaux sociaux.
Mais c'est bien. C'est fou, oui. C'est comme, c'est vraiment intense de recevoir tout ça.
Mais oui, on se croirait dans l'obscurité des années 1400 où les scientifiques étaient brûlés. Là. Ouais. Non, mais si on est rendu qu'on craint notre sécurité pour parler de la science, ça va mal dans la
science. Est-ce qu'à un point, ça t'a donné le goût d'arrêter? Parce que ça va un peu... Oui, c'est difficile, mais en même temps, c'est un peu ce qui pousse, je pense, à continuer. Parce que...
Ben, à un moment, j'ai dit que je prenais ma retraite, mi-octobre, je pense. Oui, mi-octobre, j'ai pris ma retraite, parce que là, c'était un peu trop. C'était, je pense, une ou deux semaines après, tout le monde en parle. Puis là, c'est là que tout est tombé, parce que les mouvements anti-vaccins se sont mis à signaler mes affaires en mars et j'ai perdu mes comptes Facebook. Et j'ai failli perdre mon TikTok, parce que j'ai reçu des signalements en masse.
Oh my God.
Massivement. Puis, là, tu sais, pour continuer, il a fallu que je contacte Facebook, puis que là, ça devenait vraiment intense. Fait que là, j'ai dit, bon, je prends ma retraite. Puis, je pense que ça allait laisser le temps à ces gens-là de se calmer. Parce que, tu sais, tout le monde en parle, ça a été visionné par des millions. Puis, je suis revenu juste à temps pour la vaccination des enfants. Parce qu'à ce moment-là, la désinformation reprenait, ça n'a jamais été aussi pire qu'au début de la vaccination des enfants. Puis, c'est là que Réinfo COVID est entré dans le bateau. Réinfo COVID Québec, là, qui est moi, je les appelle Désinfo COVID. Là. Et ils sont, ce que je trouvais très dangereux, parce que certains d'entre eux sont des professionnels de la santé, certains d'entre eux sont des scientifiques québécois. Quand je dis là, ils sont rares, mais on dirait que Réinfo COVID les a tous trouvés, puis les a rassemblés. donc, quand je suis revenu en novembre, je suis revenu en force avec la vaccination des enfants. J'ai fait une capsule de 21 minutes, c'est ma plus longue à vie. pour expliquer pourquoi c'était sécuritaire.
Parce que c'est ça, souvent quand on parle des enfants, ça crée une espèce de panique morale.
Bien, chez un certain groupe de personnes qui sont fondamentalement anti-vaccins, puis probablement plus étendues at large, vu que c'est un vaccin qui est nouveau. Mais quand même, il y a une minorité des gens qui étaient vraiment extrêmement intenses par rapport à ça, là, qui allaient dire des choses comme vous êtes, c'est un crime contre l'humanité, puis des âneries de la sorte. Puis, même à Réinfo COVID, justement, il y a une pharmacienne québécoise qui est allée dire que 35 enfants allaient mourir si on vaccine les enfants. Elle a nommé un chiffre, là. Elle a dit 35 enfants vont mourir. Avec son petit logo Proxim, là. Une pharmacienne. Avec un sarrau. Donc, ouais.
Ça, tu sais, quand on dit des chiffres comme ça, les gens s'identifient aux chiffres, fait qu'ils voient leur enfant dans le 35, mettons.
Mais c'est pour ça qu'il faut protéger le public. Parce que en réalité, c'est l'inverse. Le virus est toujours pire que le vaccin. Puis d'ailleurs, on attend intensivement les vaccins de 6 mois à 4 ans qui arrivent, là, Moderna. Mais c'est ça, le virus est toujours pire. Puis ce que j'essaie d'enseigner aux gens, c'est que le vaccin est dans le virus, en plus de 29 autres vaccins. OK? Parce que le virus, c'est un gros ARN, un gros ARN qui code pour 30 protéines. Alors que le vaccin, c'est un petit ARN qui code pour une protéine. La même qui est dans le virus, c'est la protéine spike. En plus, dans le virus, il y a 29 autres protéines. Donc, dans le virus, vous vous retrouvez avec 30 vaccins qui se répliquent. Parce qu'on s'entend qu'un vaccin, ça ne se réplique pas. C'est une molécule inerte, ça crée des protéines, ça finit là. Le virus, il crée des protéines exponentiellement dans tous les organes de votre corps. C'est à peu près ça. C'est une usine à vaccins, finalement. Si on appelle un vaccin un épitope, un antigène viral, mais là, vous vous retrouvez avec plein de réplications virales dans le corps de vos enfants. Donc, c'est à choisir. Est-ce que vous voulez un ARN dans le muscle deltoïde de votre enfant? Qui va se convertir en quelques protéines inertes qui vont disparaître avec le métabolisme en environ 2 semaines. Ou vous voulez un virus qui un virus ARN qui injecte l'ARN dans à peu près tous les organes de votre enfant. L'ARN transforme les cellules de vos enfants en usines à protéines spike et à virus qui se répliquent exponentiellement jusqu'à temps que le virus gagne ou que l'enfant gagne. C'est à peu près ça. Donc, on choisit entre 30 vaccins ou un. C'est ça que j'essaie de faire comprendre les gens. Puis quand on le raisonne comme ça, il n'y a aucune question à se poser. Puis c'est ça que Eli Haddad dit, un immunologue pédiatre qui a 20 ans d'études dans le domaine. Il dit, c'est toujours mieux de prendre le vaccin parce que vous avez le choix entre la petite affaire ou la grosse balle qui contient aussi le vaccin, mais en plus de plein d'autres cochonneries. Puis que de toute façon, tout le monde va l'attraper.
Puis là, ça me fait penser que ton explication était tellement claire. Est-ce que tu savais que tu étais bon pour expliquer des concepts comme ça avant ou c'est juste venu sur le fait? Tu as dit, moi, je vais faire une capsule vidéo. Puis là, ça a donné que tu as verbalisé les infos scientifiques. Tu l'avais.
Ouais, je pense que c'est comme ça. Là. Ben, il y a beaucoup de personnes qui disent que je suis assez bon pour vulgariser, mais je suis certainement pas aussi bon qu'Eli Haddad. Lui, il est fort. Je disais, je l'admirais déjà quand j'étais au PhD parce qu'il était à Sainte-Justine aussi, c'est un chercheur. Puis j'ai écouté, il a fait un podcast avec Éric Sabat qui dure 1h30. J'écoutais ça dans ma voiture en revenant d'une garde. C'était tellement bien expliqué son affaire. Tellement bien expliqué. Mais j'arrive pas à l'achever. Mais il y a beaucoup qui disent que je suis bon, mais lui,
il est
fort. Il y a
peut-être l'expérience aussi qui rentre. Là. Ça doit
peut-être, ouais, s'améliorer. À force.
Peut-être avoir expliqué à autant de familles.
Ah, mais ouais. C'est clair. C'est clair.
Ouais. Puis est-ce que tu penses que ces capacités-là que tu as acquises avec les réseaux sociaux, puis ainsi de suite, c'est quelque chose qui va te transposer dans ta pratique future en tant qu'anesthésiologiste?
Je pense que oui. C'est-à-dire, en anesthésie, on ne suit pas beaucoup de patients. On peut en suivre en douleur. Ce n'est pas tous les anesthésistes. Mais on a un moment privilégié avec le patient avant de salle d'op, qui est à peu près 5 minutes. En Europe, c'est différent. En Europe, tous les anesthésistes voient les patients 2 semaines à peu près avant la salle d'op.
Ouais.
Expliquer l'anesthésie, c'est correct, hein? C'est bon. Je veux dire, t'arrives à ta chirurgie, t'as aucune idée de quoi va être l'anesthésie. Je préfère le modèle européen. Mais ici au Québec, on a 5 minutes avant la chirurgie chez les patients qui sont extrêmement stressés d'aller en chirurgie. Puis il faut avoir un contact, établir une relation thérapeutique en 5 minutes.
Mm-hmm.
Parce que c'est nous qui allons prendre en charge la vie du patient. Je veux dire, c'est l'anesthésiste qui maintient le patient en vie durant la chirurgie.
Mm-hmm.
Donc, je pense que c'est super important pour un anesthésiste d'avoir des bonnes aptitudes de communication.
Mm-hmm.
La croyance populaire veut le contraire. Elle dit, les anesthésistes, leurs patients, ils dorment. Mais en fait, non, je pense que c'est au contraire. C'est les anesthésistes qui ont à faire ça en le moins de temps possible, établir un contact.
Mm. Pour rassurer les bons le patient mots, aussi.
Hein. Pour rassurer, puis gagner la confiance aussi, oui.
Mm. C'est clair. Puis, oui, là, pour revenir... Avant ma parenthèse, tout le monde en parle, mais c'est ça, tu disais, tout le monde en parle que dans le fond, il y a quand même eu des gens qui t'ont écrit des messages positifs, là, tu sais, que,
ouais,
qui ont comme changé d'avis un peu à cause de,
oui,
de tes vidéos. Là. Ça a dû quand même faire du bien là, dans, ouais, la marée de gens qui te faisaient des menaces de mort. Ça a dû,
ouais, ouais,
faire,
mais, un petit bond. Mais tu sais, on parle beaucoup des gens qui sont méchants, mais c'est moins de 1%. Je reçois, ouais, des tonnes de messages, tu sais, d'amour positif. J'en reçois tellement, mais un seul message négatif va tout enlever les positifs. Ouais. Ça, c'est dommage, c'est plate, mais c'est de même.
Mm-hmm.
C'est comme si on se désensibilise un peu aux messages positifs parce qu'on n'aime pas les messages négatifs. C'est plate, là. Mais oui, j'ai reçu des témoignages de vaccination, ça me rend extrêmement fier. Il y en a même un qui a passé dans le journal de Montréal. une dame qui est allée se faire vacciner à cause de mes vidéos. Elle a été interviewée et tout. Mais ouais, ça me rend fier. Ça montre que ça fonctionne. Le problème, c'est que j'en ai de moins en moins. J'en ai compté plus de... Je pense que tu es rendu à 1100 ou 1200. Ça, on parle fin décembre.
Oh, des gens, wow, qui t'ont dit qu'ils sont allés se faire vacciner à cause de tes vidéos.
À cause de mes vidéos.
OK, c'est fou.
Et c'est beaucoup.
C'est, oui, vraiment... Oui. C'est beaucoup plus que j'aurais.
Puis je l'ai posté à chaque jour sur Twitter. À un moment donné, les gens étaient cœurés. mais depuis janvier, j'en ai pas eu un seul.
OK. Ça ralentit un peu. Mais peut-être ça, que, ouais. Peut-être que les gens qui avaient à convaincre, ils ont été convaincus.
Mais c'est ça. C'est ça que je me dis. Puis ceux qui, tu sais, les autres, je pense que c'est le noyau dur, là. C'est des gens qui sont fondamentalement anti-science, là, pour la majorité. Donc, pour moi, ça sert à rien d'aller présenter la science. Étant donné que c'est des gens qui sont anti-science, ils ont des croyances du genre la science est financée par Pfizer, la science est truquée, la science est au service du gouvernement, des choses comme ça.
Mm-hmm.
Malheureusement...
Un truc que tu peux pas aller changer avec une vidéo de 15 exact. Minutes. Là.
Selon non. toi, c'est quoi, pourquoi le noyau fait ça? T'sais, pourquoi ceux qui délibérément partagent la désinformation, pourquoi ils le font?
Ben, la majorité, je pense qu'ils y croient. Il y a certainement dans l'équation un manque d'éducation aussi, un manque de savoir identifier des sources qui sont crédibles, avoir un esprit critique face à ce qu'on lit. Il y a une autre partie, puis ça a été montré avec des études, il y a une autre partie qui est très bien éduquée, des gens qui vont à l'université, mm-hmm. puis tout. Donc, il y a probablement une partie de paranoïa aussi, tu sais, dans tout ça, ou d'opposition aussi, des gens qui vont juste pas dire ce qu'on leur demande de faire, pas faire ce qu'on leur demande de faire.
Ouais.
Mais c'est ça, malheureusement, ça sera pas avec mes capsules que ces gens-là vont changer d'idée, probablement qu'ils changeront jamais. J'ai vu des patients qui étaient sur leur lit de mort COVID, puis qui niaient que la COVID existait, puis qu'ils en sont morts. Donc, il y a une minorité de personnes qui vont toujours rester dans le déni. ça fait aussi partie des mécanismes d'action de l'être humain pour se défendre. Peut-être juste des personnes qui sont plus anxieuses par rapport à ça. Puis c'est anxiogène, la pandémie, c'est normal.
Ouais. Puis est-ce que là, vu que depuis janvier, tu as reçu des messages, est-ce que tu penses continuer à faire tes capsules ou c'est avec la pandémie qui se ralentit-ish?
Ouais.
Parenthèse.
Je suis du
non, mais non, c'est ça. Ben, j'essaie d'arrêter de faire des capsules. comment ça se mesure? Ça se mesure à chaque fois que je lis un article scientifique nice qui sort, puis là, je viens pour faire une capsule, puis là, je me dis, ah, ça vaut pas la peine. Fait que je dirais 10 pour 1. À chaque fois que j'ai 10 idées de capsule, j'en prends une.
OK.
Fait qu'en octobre-novembre, j'y prenais toutes. Fait que ça va finir par stopper. Là, j'ai recommencé à faire des capsules d'humour sur TikTok. J'aimerais faire la transition, revenir comme avant, puis arrêter de parler de science. Étant donné que je suis plus sûr que ça vaut tant la peine. Puis d'ailleurs, ça pogne moins aussi. Je pense que les gens sont moins intéressés parce que l'information est là maintenant. Tu sais, les gens qui avaient l'information, ça leur tente plus là, d'avoir toujours la même information en continu. Puis les gens qui ne veulent pas, ils ne veulent pas.
Donc, ça t'intéressait pas de continuer à faire de la vulgarisation scientifique dans peut-être d'autres sujets?
Genre? D'autres sujets, non. Non, pas vraiment parce que j'ai pas tant le temps. Ça, je suis assez occupé. Puis de deux, j'ai trouvé que durant la COVID, les vaccins, les vagues, ça avait un impact qui était majeur. Je me suis dit, je pourrais sauver des vies en faisant ça.
C'est
maintenant, 1200. Je trouve pas. Ouais, peut-être. Ben, tu sais, 1200, disons 10% de ce gang-là, peut-être qu'il y aurait eu une COVID sévère. Donc, oui. Mais maintenant, tu sais, les autres sujets, je suis pas sûr, tu sais, par exemple, aller parler de, je sais pas, l'hypertension artérielle, OK, c'est vraiment important d'en parler, de le dépister, mais j'ai comme l'impression que le monde, ils le savent, tu sais, c'est un sujet qui est pas nouveau, il y a déjà plein d'informations de toutes sortes. Donc, je suis pas convaincu que...
C'est plus accessible de trouver l'information sur ces sujets-là. Des gens ont déjà essayé de le vulgariser avant.
Puis il y en a aussi des médecins sur TikTok puis d'autres plateformes qui font déjà ce job-là. Il y a le pharmacien au Québec, en Amérique, il y en a plein, en Europe aussi. Mais pour la COVID, j'ai trouvé que ça valait vraiment la peine. Puis il y avait des concepts scientifiques importants que les gens devaient comprendre aussi.
Puis tu te sentais outillé à le faire.
Ouais, vraiment, avec mon double background médecine puis aussi immuno.
Ouais, clairement. Puisque, mettons... Tu sais, je te trouve vraiment bon d'avoir été game de le faire. Parce que, tu sais, c'est ça, tout ce que tu dis peut être un peu repris contre toi.
Ben oui, c'est sûr. Si tu te trompes aussi... mais c'est ça qu'on discutait, tu sais, on revient à ce qu'on disait tantôt. Le concept fondamental est tellement clair que ça serait étonnant que le reste ne suive pas. Puis c'est ça en médecine tout le temps. Puis moi, je dis tout le temps, si vous ne comprenez pas la clinique... revenez à la base, tout le temps. Quand on ne comprend pas quelque chose, on revient à la base. C'est la même chose pour la COVID. En janvier, quand le tableau affichait que les gens vaccinés avaient beaucoup plus... qu'il y avait plus de cas chez les gens vaccinés que les gens non vaccinés, ou encore maintenant, quand on regarde le tableau, même chose, les triples vaccinés qui sont plus hospitalisés que les gens qui ne sont pas vaccinés, on ne comprend pas, on revient à la base. C'est tout le temps ça. La science fondamentale va nous enseigner ce qui nous manque comme information. Même chose pour la COVID. Si tu prends le vaccin, tu prends une minuscule partie inerte du virus. Tout le monde va avoir le virus. Le vaccin protège contre le virus. Si tu prends le virus, tu prends le vaccin, oui, en plus de plein d'autres affaires. Fait que comment tu peux te tromper en disant que le vaccin est bon? Il y a eu des exceptions comme AstraZeneca. Le problème, c'était pas le vaccin, c'était le vecteur, l'adénovirus, qui causait très rarement des cas de thrombose.
Ouais.
On en a tous entendu parler. Ça a été identifié rapidement. Puis bon, ben, mettons-nous dans cette position-là. Je faisais pas de capsule dans ce temps-là, mais disons que j'avais fait une capsule pour dire « Allez tous prendre AstraZeneca.
Ouais. »
Un mois plus tard, « Oh non, AstraZeneca, il cause des thromboses. » Puis là, ça me revient sur le dos, te dit que c'était bon, puis ma grand-mère a fait une thrombose, honte à toi. Tu sais, ça aurait pu se passer, ça s'est pas passé, là. Mais encore, on aurait pu dire, oui, mais la COVID, elle cause des thromboses aussi.
Ouais.
Puis elle en cause beaucoup plus, puis ils sont beaucoup plus sévères. C'est plate qu'il y ait eu un effet secondaire, puis c'est vraiment triste que la personne ait eu une thrombose ou même qu'elle soit décédée de la thrombose. Mais cette personne-là aurait aussi pu attraper la COVID et faire une thrombose en décéder. Elle a choisi de se protéger. Elle a malheureusement eu l'effet secondaire extrêmement rare. Donc, Dans toute cette optique-là, je n'étais pas tant stressé à parler en bien des vaccins.
Ouais. Ça te prenait combien de temps à faire chaque capsule, mettons, à peu près?
Tu sais, il y en a qui durent une minute à faire. Puis il y en a comme celle sur la vaccination des 5 à 11 ans. Elle m'a pris toute ma journée.
Wow.
Puis je l'avais écrit aussi toute la semaine. Fait que disons une semaine au complet. Mais pour la filmer, ça a pris toute la journée.
Ouais, OK.
C'est 21 minutes de capsule. Puis on voit là, si on regarde la 1, puis on regarde la 7e partie, parce que c'est sur cette partie sur TikTok, je suis rendu cerné à 7e, puis il fait noir dehors.
Versus la première toute pimpante.
Ouais, vraiment. Mais ça, les gens m'avaient dit qu'ils attendaient ça de moi. Il disait, j'ai hâte qu'il fasse la capsule, ça va être sur lui que je vais baser ma décision, pas sur ce que Santé Canada a dit, pas sur ta.
Hey, c'était rendu ça, les big, gens te faisaient confiance.
Il me faisait confiance plus que tout le reste. Les parents, ils me disaient, on attend ta capsule. Fait que je m'étais mis une grosse responsabilité sur le dos, j'avais pris toute la semaine pour la faire. Je lui ai dit, il ne faut pas que je me trompe. C'est la première fois que je faisais une capsule sur un sujet qui était aussi frais.
Mm-hmm.
Parce que quand je parle, tu sais, quand je parlais des vaccins, ça faisait longtemps qu'ils étaient sortis, puis on avait plein de données, là. Je faisais, j'étais pas en train de me mettre dans l'eau chaude. Avec les vaccins d'enfants, on avait 4000 enfants qui avaient reçu le vaccin dans le monde.
Ouais, c'était...
Donc, il faut pas que je me trompe dans ce que je dis. On s'entend, là. Parce que, oui, la pharmacovigilance, c'est important. Est-ce qu'on aurait pu détecter des effets secondaires, tu sais, plus rares, mais graves chez l'enfant? Ça aurait été désastreux. Imaginez un enfant qui décède du vaccin.
Ouais.
Il a fallu tout que je revise les données, pas juste les données des études des cliniques chez les enfants, mais toutes les données de sciences fondamentales de ces vaccins-là, comment ils fonctionnent, est-ce qu'il y a des certains récepteurs chez l'enfant qui pourraient être activés, tout ça. Puis mes conclusions de tout ça, c'était, chez l'enfant, c'est certain que le virus va être plus grave que le vaccin.
Mm-hmm.
Puis sinon, pourquoi tu as choisi le vecteur de TikTok principalement? Tu avais aussi un peu Facebook, ouais. Mais qu'est-ce qui t'a attiré vers ce réseau social-là? C'est plus les jeunes souvent qui ont TikTok, c'est-tu pour ça?
Ben, premièrement, YouTube, c'est de la merde. Ça, c'est clair. Quand on poste une vidéo
sur YouTube, là.
Ah, je suis désolé pour vous, mais le problème, c'est que quand on poste une vidéo sur YouTube, c'est notre responsabilité d'en faire la promotion.
Ouais.
OK? Si moi, j'ai un channel YouTube, OK, j'ai 150 vidéos dessus. La vidéo que j'ai qui a le plus de views, je pense que c'est 20. 20 views, OK? Sur mes 150 vidéos, j'ai probablement même pas 1000 views. Mais j'ai posté 150 vidéos, là.
Ouais.
Ce qu'il aurait fallu...
Ça va revenir. Les gens vont aller regarder ton YouTube.
Ben, c'est ça. Il faut que j'en fasse la promotion. Je dis, allez sur mon YouTube, tatatata. Là, il faut que j'aille sur Instagram puis dire aux gens, allez sur mon YouTube. Ouais. Puis ça ne tente pas de faire ça. Je veux dire, moi, je veux pas être un promoteur de mes affaires. Je veux juste faire mes affaires. Mm-hmm. TikTok, c'est parfait pour ça. Tu fais tes affaires. Si c'est pas bon, c'est pas diffusé. Si c'est bon, c'est diffusé. Puis c'est le public qui décide. Parce que l'algorithme de TikTok, c'est est-ce que les gens écoutent la vidéo au complet, oui ou non? Non, on le diffuse pas. Oui, les gens l'écoutent au complet, on le diffuse, on lui donne 15 millions de views. Gratuitement.
Mm. OK.
Alors que pour YouTube, c'est des fois, il faut payer. Il y a des gens qui payent pour avoir plus de views. Il faut aller chercher des stratégies de promo, en tout cas.
Mm-hmm.
Donc, TikTok, c'est parfait pour ça. J'ai une vidéo qui a fait 650 000 visionnements, vidéo sur les soins intensifs. Il m'a pris même pas une minute à faire. Même pas une minute à faire. J'ai une autre vidéo, OK, il dure 3 secondes. Tout ce que je dis, puis c'est vrai, c'est assez logique, quand 100% des gens vont être vaccinés, 100% des cas vont être chez les personnes vaccinées. Cette capsule dure 3 secondes.
Mm-hmm.
Plus de 100 000 visionnements. Parce que c'est vrai, les gens n'arrêtent pas de dire « Ah, ben là, il y a plus de cas chez les personnes qui sont vaccinées. » Oui, mais 90% des gens sont vaccinés. Proportionnellement, ça fait du sens. Puis quand tu vas voir 100% des gens, 100% vont être chez les vaccinés. En tout cas, tout ça pour dire que ce qui est important c'est sur TikTok, c'est est-ce que ta vidéo intéresse les gens? Puis si oui, gratuitement, je vais la faire passer sur la planète entière.
Est-ce que ça t'a rapporté un peu d'argent à faire ça?
TikTok, non.
Zéro?
Non. Mais il y a des façons de faire de l'argent sur TikTok. Essentiellement, c'est par des cadeaux. Il faut que tu les actives, les cadeaux. Puis là, au moment où je parle...
Je sais même pas c'est quoi, moi, les cadeaux.
C'est comme, tu sais, les gens vont t'envoyer un cadeau, des lunettes, ouais. Puis eux autres, ils payent, puis TikTok fait une grosse partie des profits. Je pense qu'à chaque fois que quelqu'un dépense 1$ pour un cadeau, la personne à qui il l'a envoyé a 20 sous, puis TikTok a 80, un truc comme ça.
Okay.
Ça vaut pas la peine. Envoyez pas de cadeau à moi ni personne. Drôlement, aujourd'hui, TikTok m'a activé les cadeaux sans que je l'ai activé. Mais habituellement, il faut que tu les actives pour en recevoir. Puis là, j'en ai reçu un aujourd'hui. Fait que je peux dire que j'ai peut-être fait, je sais pas, 5 sous. Mais non, c'est pas payant. Sur les lives TikTok aussi, on peut faire de l'argent, mais moi, j'en ai pas fait.
Mm. Fait que, tu sais, si je me trompe pas, tu sais, à la base, t'étais déjà quelqu'un qui allait aller lire les articles, être bien informé de l'évidence, mettons.
Ouais.
Fait que c'était comme plus naturel pour toi de vouloir genre juste le verbaliser à tous.
Ouais, ben j'ai eu des mentors aussi là sur TikTok. Il y a des gens, des Américains surtout, qui font. En fait, moi j'ai copié leur concept. Ils font ça là. Ils reprennent les gens puis ils montrent les faits en arrière d'eux avec un fond vert. J'ai fait exactement la même chose qu'eux. Mais c'est assez naturel pour moi, oui, parce que, je veux dire, des articles scientifiques, j'en lis, pas seulement j'en lis, mais j'en publie, j'en écris. Donc, je sais très bien comment ça se fait. Je sais très bien comment analyser puis critiquer un article. Un exemple de ça, c'est Éric Duhaime qui avait publié... Il avait publié un article scientifique. Éric Duhaime, c'est pas un scientifique, mec, déjà, OK. Puis, en fait, il l'avait republié, là, il l'avait partagé plutôt, en disant, regardez, plus les pays sont vaccinés et plus il y a de cas. Puis effectivement, c'était pas un article scientifique, c'est ce qu'on appelle une correspondance. Okay? Souvent, c'est pas révisé par les pairs, c'est comme un article quasiment d'opinion. Là. Puis, il y avait un scientifique qui s'était amusé à faire justement une corrélation entre le taux de vaccination d'un pays puis le nombre de cas. Puis, effectivement, c'est une corrélation. Plus un pays est vacciné, plus il y a de cas.
Puisque plus il y a plus de monde.
Ben, en fait, moi, ce que je pense, c'est si t'as pas assez d'argent pour t'acheter des vaccins, t'as pas assez d'argent pour t'acheter des tests.
Ah, pour...
Il y a des pays dans le monde, il y a zéro cas. Hein.
Ouais, c'est parce qu'ils testent
pas. Mais ils testent pas. Comment tu veux... C'est arrivé au Québec aussi, au début janvier, on testait pas, il y avait pas de cas.
Soudainement.
Il y avait pas de cas et on testait pas.
Fait que... C'est vrai. Ou même, ils vont pas aller... possiblement aller dans les milieux hospitaliers ou tout ça, tu sais, fait qu'encore une fois, c'est un biais, les gens vont peut-être pas aller rechercher des soins si les soins ne sont pas accessibles.
Aussi, mais oui, c'est ça. Ou même, ils vont aller chercher des soins, mais les médecins ne pourront pas diagnostiquer la COVID, il n'y a pas de test. Donc cette corrélation-là ne fonctionnait pas, puis j'avais réagi à cette vidéo-là. Mais c'est pour ça, c'est important de savoir lire un article, pas juste lire les conclusions.
Fait que, toi, tu passes combien de temps, mettons, à lire des articles?
Pas si longtemps.
Non?
Tu sais, lire un article, ça se fait assez rapidement. Tu sais, au début, c'est tough, mais quand ça fait 1000 que tu lis, puis il faut que tu produises des travaux, tu sais, au PhD, on doit produire des analyses critiques, tout ça. À un moment donné, c'est une lecture assez en diagonale, là. OK, le titre, le journal dans lequel c'est publié, l'équipe travaille où? OK, ça fait du sens. Est-ce que cette équipe-là publie dans ce domaine-là? Oui, OK. Tu lis jamais les conclusions d'un article. Tu lis presque jamais l'abstract, en tout cas au complet. Ce que tu lis, c'est les résultats de la méthode. Tu lis pas l'introduction, tu lis pas la discussion, t'en as rien à foutre. Désolé, je sais pas si j'ai le droit de dire ça.
Ben oui.
Mais c'est vrai, parce que si t'es quelqu'un qui lit la conclusion d'un article, c'est parce que t'es pas capable de faire ta propre conclusion. Right?
Ouais.
Puis souvent, la conclusion d'un article, en tout cas pas souvent, mais des fois, ça arrive qu'elle est pas fiable. Les scientifiques vont vouloir tirer une conclusion qui est sexy pour être publiée dans un journal plus gros. Le plus gros impact, c'est un biais qui est normal. C'est-à-dire, c'est pour ça que la révision par les pairs existe, mais des fois, la révision par les pairs n'est pas 100% étanche. Donc, des fois, il y a des conclusions qui sont un peu trop larges pour les résultats qui sont présentés. Donc, quand tu lis un article, en gros, tu lis le titre où c'est publié, la revue, si ça a été révisé, tu lis les résultats, la méthode. Si ça te satisfait, t'en parles.
Ça, c'est quelque chose que, moi, il faut que j'intègre plus dans ma vie tous les jours. Tu sais, je pense qu'en en tant qu'étudiant en médecine, on devrait en lire. T'as-tu des
ressources? Mais c'est pas enseigné, right?
Ben, un peu.
Non, un petit peu de cours là-dessus.
Ouais, ah ouais?
La base.
Des... Journal Club qui appelle. Qu'il faut réviser un article pour en discuter avec.
Si McGill écoute, oui, vous nous donnez les outils.
Ah, vous êtes de McGill?
Ouais.
À l'UDM, moi, je venais d'un background de doctorat en pharmacologie. J'avais pas besoin de ces cours-là, mais je les ai pas reçus non plus. Donc, la plupart des étudiants en médecine ne vont pas recevoir ce genre de cours-là, sauf ceux qui décident d'aller suivre une formation au cycle supérieur.
Puis, est-ce que tu es comme. Comment tu trouves tes articles, dans le fond? Est-ce que tu es abonné à des newsletters ou des trucs comme ça qui filtrent un peu déjà pour toi, genre?
Oui, fait que c'est tout à fait possible. Si un journal qui est dans le champ d'intérêt qui vous plaît, vous pouvez aller vous abonner à Table of Content, la table de matière du journal. Fait que par courriel, à chaque fois qu'ils publient un journal, ils vont vous envoyer juste la table de matière. Vous allez juste lire les titres des articles. Puis s'il y en a un qui vous intéresse, par exemple, la COVID, mais là, vous pouvez aller voir l'article. Si vous intéresse pas, vous mettez ça aux poubelles. C'est une bonne façon de faire. Mais il faut pas perdre son temps avec certains journaux qui sont, plus boboches. Mais allez-y pour les gros journaux. Sauf si vous êtes dans un secteur en particulier, puis les plus petits journaux vous intéressent. Là. Mais essentiellement, Nature Science, New England, Lancet, JAMA sont les 5 gros journaux en médecine. Puis en sciences plus fondamentales, vous pouvez aussi aller vers PNAS, qui est bon aussi, GCI, Journal of Clinical Investigation.
Puis sinon, est-ce que tu as des conseils? Les étudiants, parfois, on pense à comme des projets qu'on pourrait faire, tout ça. Puis tu sais, il y en a qui aimeraient peut-être ça reproduire des trucs sur les réseaux sociaux. T'as-tu un conseil autre que ce qu'on a parlé un petit peu à leur donner pour les gens qui aimeraient ça se lancer là-dedans?
De se lancer? Ouais. Faites-le pas, non, c'est une joie. Non, non, mais il faut être préparé, il faut avoir les bretelles
solides,
la tuque attachée avec la broche.
La quenzure.
La quenzure. Non, sérieusement, si vous êtes genre la personne à tout prendre, tu sais, sérieusement, puis à vous faire du stress avec des affaires, faites pas ça. Ça pourrait sérieusement nuire à votre santé mentale. Parce que les gens vont essayer de vous trouver, ils vont essayer de vous attaquer, de vous menacer, ils vont vous écrire, ils vont créer plusieurs comptes pour vous attaquer. En tout cas, ça finit plus. Mm-hmm. Surtout si vous êtes dans un sujet chaud comme la COVID, les vaccins, tout ça. Ça vous tente de parler, je sais pas moi, ça vous tente de parler, je sais pas, de la maladie d'Alzheimer, peut-être qu'il y aura moins de gens pour vous attaquer. Mais si ça vous tente de parler de COVID, de vaccins, tout ça, il faut être prêt. Il faut avoir aussi des amis pour nous soutenir, des pères qui nous soutiennent. Ça aide beaucoup. Voilà. Faites attention à ce que vous dites aussi. Il faut toujours que tout soit un peu nuancé. Il faut que vous disiez quand un résultat de recherche n'a pas été reproduit ou qu'un article que vous présentez n'est pas révisé par les pairs. En tout cas, il faut être nuancé.
Ça demande beaucoup plus de travail que je pensais.
Ça demande beaucoup de travail, oui. Ça demande beaucoup de rigueur. Puis, tu sais, aussi, le collège des médecins, tout ça, ils nous demandent de toujours que tout ce qu'on dit soit appuyé sur les données probantes, les faits. Mais il faut aussi faire attention parce qu'avec la COVID, ils sortent des articles avant qu'ils soient révisés par les pairs. Donc, il faut aussi préciser les limites de ce qu'on est en train de dire. Je vous donne un exemple. Disons qu'ils vont sortir un article qui dit que, je sais pas moi, la COVID chez les non-vaccinés cause le cancer. Okay. C'est un article qui est non révisé. Puis là, vous dites, oh mon Dieu, c'est important, il faut que je le dise parce que ça pourrait avoir un très grand effet sur leur santé. Mais n'oubliez pas de préciser que l'article n'est pas encore révisé par les pairs et n'a pas encore été reproduit et qu'il faudrait attendre qu'il soit révisé avant de prendre des conclusions, mais dans l'attente, le mieux est toujours de se faire vacciner, tout ça.
Ouais.
L'important, c'est de le préciser. En tout cas, il y a des petites règles comme ça qui sont importantes.
Ouais. Je pense que c'était une de tes forces, j'ai l'impression. C'est l'attention aux détails, puis aussi de garder toujours un ton un peu neutre. Là.
Ouais.
De ne pas que les gens se sentent comme attaqués.
Ouais. Il y a certaines de mes capsules qui sont plus... quand je m'adresse à des gens qui font de la désinformation, surtout des professionnels de la santé, des fois, je suis baveux, là. Mais la plupart de mes capsules... Non, mais c'est vrai, c'est parce que moi, ça me dérange, parce que c'est des gens qui sont formés pour être capables de comprendre la science.
C'est ça.
Mais qui, des fois même délibérément, vont aller dire des choses qui sont fausses pour leur propre agenda, qui est au détriment de la santé des gens. Puis ça me fâche. Puis quand ça me fâche, ben je peux être baveux.
Ouais, puis ça, pour vrai, j'ai l'impression qu'on peut comprendre ça, mais tu sais, ce qui aurait moins passé, c'est d'attaquer les gens qui, eux, c'est ça, c'est juste par manque d'éducation ou
ouais,
autre.
Ouais, c'est ça. C'est ça, ça, il faut faire attention.
La limite est là, j'ai l'impression.
Oui, mais oui, clairement.
Ouais.
Oui, oui. Puis tu sais, des fois, je fais des vidéos pour répondre à des gens, mais il faut faire attention aussi, il ne faut pas harceler les gens.
Mm-hmm.
J'essaie de m'en tenir à un. Sauf pour des infos COVID que j'en ai fait 4.
Ouais.
Mais non, mais tu sais, on peut répondre à des gens tu sais, qui sont pas médecins puis tout, on le fait dans le respect, puis on s'en tient à un. Puis on invite les gens au respect dans les commentaires.
C'est excellent. Puis là, qu'est-ce qu'on te souhaite, là, R3 en anesthésie pour la suite?
Là, je commence en automne ma maîtrise en épidémiologie, donc des cours.
Y a-t-il un sujet précis dans la maîtrise qui s'est décidé ou pas encore?
Ben le sujet de mon programme clinicien-chercheur, c'est intéressant, c'est... Le monitoring de la nociception intra-opératoire.
Okay.
Alors, disons que vous avez un patient qui est sous anesthésie générale. Comment vous savez s'il y a mal ou non? Mais premièrement, on ne peut pas avoir mal sous anesthésie générale. Mais quand même, notre corps pour ressentir la nociception, les fibres, les récepteurs, les fibres C, les fibres A-delta, tout ça peuvent être activés. Puis ça peut mener à de la douleur chronique.
Mm-hmm.
Grosso modo, les anesthésistes vont se fier à des signes indirects. La fréquence cardiaque qui augmente, la tension artérielle qui augmente. Ah, peut-être qu'il y a mal, tu sais. On va lui donner plus de médicaments contre la douleur. La sueur, tu sais, la sueur qui perle. Pas la sueur, je veux dire des larmes. Oui, la sueur aussi. La sudation. Donc voilà. Mais c'est des signes indirects. Maintenant, depuis 2013, on a un outil qui s'appelle le NOL, qui est une petite pince qu'on met au bout du doigt, puis c'est un algorithme d'intelligence artificielle qui va prendre plein de signaux en compte. Tout ce que je viens de vous nommer, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la plétismographie, puis qui va intégrer un score de 0 à 100. 100, t'as vraiment mal. 0, t'as pas mal. Fait que moi, mon étude va être de déterminer si d'avoir cet instrument-là en salle d'opération peut diminuer notre consommation de narcotiques, peut diminuer la douleur aiguë en post-partum, quand le patient se réveille. Y a-t-il plus mal, y a-t-il moins mal si on utilise ça ou si on ne l'a pas utilisé? Et à long terme, la douleur chronique. Bref, ça sert à quelque chose, cette affaire-là, ou c'est juste une bébelle?
Oui, c'est vraiment intéressant.
Très intéressant.
Très applicable aussi. J'ai l'impression que ça va avoir des résultats qui vont pouvoir en changer quelque chose.
Exactement. Mais que ce soit négatif ou positif, ça va changer quelque chose. Parce qu'on va savoir si ça sert à quelque chose de le mettre. Puis l'autre chose, c'est aux soins intensifs aussi. Aux soins intensifs, les patients ils baignent dans les narcotiques, carrément. Avoir un outil comme ça pourrait significativement diminuer la consommation de narcotiques parce qu'on serait mieux capable de le titrer.
Puis toi qui es comme, tu sais, vraiment dans le evidence-based, là, tu sais, tu te fies vraiment à la science, est-ce que tous les petits problèmes, dans les spécialités ou dans tes rotations, viennent te déranger, mettons?
Pas tant que ça, parce que, tu sais, quand on fait une rotation, disons, en cardio,
ouais,
les cardiologues, ils connaissent tellement leur littérature, ils la connaissent tellement, c'est impossible de les challenger. Okay. Ils connaissent au nom d'auteur près de chaque article. Dans certains domaines, c'est moins evidence-based, évidemment. Je veux pas en nommer, là, mais tu sais, il y en a pour laquelle la recherche est plus difficile à faire aussi, à mener. Je m'en fâche pas trop d'un fleur du tapis. Okay, souvent, je veux vraiment me fier à mes mentors, mes patrons, là.
Puis par rapport là, aux réseaux sociaux, tu dis que tu voulais aller plus vers le côté humoristique un peu.
Ouais.
Et si vers ça, tu te diriges dans les prochaines années aussi?
Non, je veux pas devenir humoriste. Je fais juste ça pour le fun, pour me détendre. Puis tu sais, je commence à avoir ma gang aussi, ces réseaux sociaux. Fait qu'on a du fun ensemble, là. On est genre, je sais pas moi, 200-300, là, qu'on se connaît bien, puis on commente nos vidéos. Fait que c'est juste drôle. C'est une façon. Puis tu sais, en temps de pandémie, on était confinés, hein, faut dire. Fait qu'on pouvait pas vraiment se voir en personne. Donc, moi, j'ai commencé comme ça, je pense que je vais finir comme ça aussi. Ma copine aussi est sur les réseaux sociaux, puis elle fait la même chose, de l'humour. Elle est comme changée, elle aussi, pour combattre la désinformation, mais elle est juriste, fait que sur le droit. Il y a eu beaucoup de désinformation sur le droit là, par rapport au passeport vaccinal, l'obligation vaccinale. Les gens ils sortaient des lois n'importe comment, puis elle s'est attaquée à ça.
Mmh. Oh wow, vous complétiez un peu les deux.
Ouais, c'est drôle. Elle a adopté un nom, c'est Walmart Sophie Grégoire. Moi, je suis Walmart Justin Trudeau.
D'où c'est parti ça, je me demandais.
Ah, c'est drôle. Ben, tu sais, au début, je m'appelais, je pense, c'est MNV.maz. Puis, je commençais à être populaire. Je pense que j'avais comme 15 000 abonnés. Puis là, je me suis dit, il faudrait que j'aie un nom drôle. Puis, ça faisait 5-6 fois qu'il y avait des gens qui disaient, on dirait Justin Trudeau.
Sur les commentaires.
Ouais, dans les commentaires. Ah, on dirait Justin Trudeau. T'as-tu la parenté avec Justin Trudeau? Fait que je répondais humoristiquement. Je disais, ouais, mais je suis une version cheap. Fait que là, je me suis dit, je vais m'appeler Walmart Justin Trudeau. Mais ça me nuit. Ça m'a vraiment nuit. C'est drôle parce que, premièrement, ma copine me déconseillait de le faire. Elle me dit, Justin Trudeau pourrait te poursuivre. Mais je pense pas que c'est vrai, là. Mais en tout cas, j'ai eu peur à ce moment-là parce que je me disais, il va pas me poursuivre. Puis après ça, je commençais à parler des vaccins. Puis les gens qui sont anti-vaccins sont souvent aussi anti-Justin Trudeau.
Ouais.
Puis Walmart aussi, dans la foulée, a mis le passeport vaccinal pour... Il fallait avoir le... Ben, c'est pas eux, mais le gouvernement, en tout cas, les grandes surfaces, Walmart en faisait partie. Fait que les gens aimaient pas Walmart. Puis ils aimaient pas Justin Trudeau. Puis tu sais, c'est toutes les mêmes gangs qui aimaient pas aussi les vaccins. Fait que ça m'ennuie. Puis il y a même du monde qui pense que je suis le fils de Justin Trudeau.
Ouais,
elle s'est allée loin, cette affaire-là. Fait que j'ai changé mon nom. Maintenant, je m'appelle Walt Trudeau. Puis c'est drôle parce que maintenant, mes vidéos sont diffusées en Europe. Puis il y a quand même des gens qui font le lien. Walt Trudeau? Ah, oh, il doit être parenté avec Justin Trudeau.
Ah ouais? Ça va rester.
C'est marqué. Ouais.
Bon, ben merci beaucoup. En tout cas, ça a été
super. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. C'est le fun.
Puis, vraiment agréable.
Ouais, bonne chance dans ton
long parcours.
Ta maîtrise, puis la fin de ta résidence.
Bonne chance à vous autres aussi. Là. Vous avez toute une résidence. Hein.
Yeah, on sait pas en quoi, mais
ouais,
on va en avoir une dans le futur.
On essaie de trouver ça ensemble.
Anesthésie.
On va le demander vite fait, là, pourquoi ouais. l'anesthésie, c'est la meilleure profession.
Non, c'est, ben oui, c'est la meilleure profession. Fait que, premièrement, parce que les anesthésistes préparent leurs médicaments, ils font leur dose, puis ils font eux-mêmes leur cocktail, tout ça, c'est plus hands-on. Tu sais, en médecine, la majorité des médecins vont prescrire, mais ils ne préparent pas les médicaments, puis ils les administrent pas non plus. Ça peut paraître nono, mais tu sais, il y a quelque chose de plus, tu sais, de le fun, proche, de plus proche du patient. Ça, c'est de un. De deux, la pharmacologie. Hein, on prépare des fois des perfusions de 5-6 agents pour atteindre exactement l'effet qu'on veut en termes de sédation, d'analgésie, d'hypnose, puis de blocage neuromusculaire. Ça, c'est super cool. Il y a un art, tu sais, il y a une portion, il y a beaucoup de science, mais c'est aussi un art. Donc ça, puis troisièmement, les techniques. Donc, je ne sais pas si vous avez commencé à mettre des canules artérielles, à mettre des voies centrales, à intuber, à mettre des voies veineuses.
Les deux derniers.
À mettre des drains thoraciques. Non,
ben en tout cas. Un peu, mais moi, je vais faire anesthésie dans 2 semaines. Fait que peut-être là, on va voir.
Mais c'est sûr, tu vas intuber, tu vas ventiler, tu vas mettre des veines, peut-être même des canules.
Moi, je l'ai fait déjà, puis j'ai fait.
Tu as fait
j'ai
tout fait ça? Ça, ouais. Il y a aussi des péridurales puis des rachis qu'on fait en anesthésie.
Il y a beaucoup de procédures. Là.
Beaucoup. Puis après ça, il faut ajouter tous les blocs nerveux. Parce qu'on est capable de bloquer tous les nerfs du corps ou à peu près pour faire toutes les interventions possibles juste sous bloc ou presque. Donc, il y a tellement de techniques, c'est hands-on. T'es formé pour que tes mains deviennent magiques, là, ou presque. Donc ça m'intéressait beaucoup parce que je trouvais que j'étais poche avec Cernop. J'aime pas ça être poche. Donc je me suis dit, je vais aller dans quelque chose qui va me rendre bon.
J'ai l'impression que ça a quand même un lien aussi. Tu as dit tout le dosage des médicaments avec ton doctorat, fait que tu devais aussi partir avec une certaine aisance.
J'aime ça, les médicaments, les molécules.
ce côté-là plus intellectuel et quand même des procédures. Il y a comme une balance en anesthésie.
Vraiment. Puis il y a des gens qui pensent que les anesthésistes, c'est pas des médecins. C'est de un. Ça les surprend quand ils savent que c'est des médecins. Puis il y a des gens qui pensent que les anesthésistes, c'est juste comme une switch. C'est un genre de gros bouton on, puis le patient est dort, puis off, puis le patient... C'est tellement complexe, l'anesthésie. C'est pas pour rien que c'est 5 ans. Puis on appelle les anesthésistes les ninjas de la salle d'op. Ou on les appelle les médecins internes de la salle d'op. Mais bref, c'est vraiment... C'est le meilleur bridge entre la chirurgie puis la médecine. C'est vraiment une profession à part, mais je le recommande chaudement.
Bon, ben merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Au plaisir.
Et sinon, tiens, qui nous écoutent, n'oubliez pas, on peut liker, aimer, on en parle à nos amis. Sinon, allez sur les réseaux sociaux aussi, allez regarder, tu dis renommer ton compte.
Ben oui, c'est Wall, barre en bas, Trudeau.
Parfait. Fait que sur TikTok, je pense que vous allez regarder ces vidéos-là, ça vaut la peine.
Sur Twitter aussi,
Twitter, Facebook.
Excellent. Puis likez nos pages aussi, puis abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci.